ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission d'avril. Après un mois de mars lié au thème des frontières, je vous emmène aujourd'hui outre-Atlantique pour découvrir la poésie d'une grande dame de la littérature américaine, très productive puisqu'elle a à son actif plus de 100 publications, romans, essais, nouvelles, pièces de théâtre. J'ai nommé Joyce Carol Oates, qui a aussi écrit des poèmes. Ainsi, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui son recueil intitulé « Mélancolie américaine », publié aux États-Unis en 2021 et qui vient d'être traduit en français cette année et paré aux éditions Philippe Ray. Parmi cet ensemble de textes, il en est un qui peut servir d'introduction à tous les autres et qui est d'ailleurs mis en exergue au dos de la quatrième de couverture, un calligramme avec la forme d'un cerf-volant. Poème cerf-volant. Il y a quelque chose dans l'âme américaine qui s'élève avec les cerfs-volants qui s'envolent. Quelque chose qui vit quand vrombit le vent soulevant le cerf-volant, qui s'élance au-dessus des toits du fait des arbres et des têtes fascinées. Et pourtant, il n'y a pas dans l'âme américaine quelque chose qui adore le cerf-volant ratant son envol. Celui dont la queue se déchiquette à l'antenne de télé. Celui qui monte follement à l'aube, puis s'abat verticalement à vos pieds en tas. Cette métaphore du cerf-volant qui ne monte pas toujours dans le ciel, mais s'abat parfois lamentablement à vos pieds, Joyce Carol Oates la reprend sous différentes facettes tout au long de son ouvrage. Ainsi, on peut penser que la mélancolie dont il est question dans le titre est à prendre au sens psychiatrique du terme et révèle justement un mal spécifiquement américain, à savoir l'incapacité d'une société à prendre en compte ce qu'elle rate, à voir ses échecs, à penser ses plaies. Et c'est justement de ces plaies-là dont il est question dans « Mélancolie américaine ». Des plaies que Joyce Carol Oates s'attache à dénoncer. Des injustices et des violences mises trop souvent sous le tapis du fait même que la société américaine est fondée sur le paradigme de la réussite. Thank you. c'est la musique du compositeur américain Philip Glass qui va accompagner les poèmes de Joyce Carol Oates tout au long de cette heure, et plus particulièrement ses études pour piano, comme celles que vous venez d'entendre. Philip Glass est de la même génération que Joyce Carol Oates. Il est né en 1937, elle en 1938. Et nos deux octogénaires, ont un autre point commun, celui d'être, chacun dans leur domaine, très prolixes. Et leur activité ne semble pas baisser avec l'âge. Joyce écrit chaque jour et a enseigné jusqu'en 2014 à l'université de Princeton, dans le New Jersey. Et Philip Glass, lui aussi, compose chaque jour, pendant 5 heures, a-t-il avoué au jeune interprète islandais Víkingur Ólafsson que vous venez d'entendre. Cela laisse à penser que la création musicale ou littéraire ne tarit pas avec les années, et c'est tant mieux. Alors, si Joyce Carol Oates est sensible aux phénomènes de société, et plus particulièrement de la société américaine dans laquelle elle vit, certains de ses textes ont aussi une connotation plus intime. C'est le cas de celui qui vient et qui dénote son amour pour les chats, et plus spécifiquement pour sa chatte qui s'appelle Sherry. Voici donc un peu de légèreté avant d'aborder des thèmes plus graves. Jubilaté. Un hommage en vers chatesque. Alors, chatesque, ça se dit catrel, catrel en anglais. C'est un mot qu'elle a inventé. Et elle l'a inventé en quelque chose qui ressemble un petit peu au mot doggerel. Et doggerel en anglais, ce sont des vers de mirliton, des vers rimaillés comme un chien. Mais elle propose ici une version plus soutenue. Une version chatesque. Car je veux considérer ma chatte Sherry, car elle est l'apothéose de la beauté chat. C'est-à-dire rien d'extraordinaire, car chez le chat, la beauté est ordinaire. Comme la félicité qui nous est accordée dans l'hypnose du ronronnement. On l'a vu pétrir de ses griffes une manche et un genou, et une peau nue, griffes pointues s'enfonçant, juste un avertissement. Car elle est de la tribu du tigre, aux yeux flamboyants, bien que câline la nuit, jusqu'à ce que vous découvriez au réveil, où est-elle ? Sherry, ne demandez rien. Car en considérant ma chatte Sherry, je considère la chatitude. Chaque chat, l'équivalent, par essence, de tous les autres, ne différant pas monstrueusement en taille, comme les grossiers chiens, mais agréablement platonique. La chutzpah des chats est la griffe gainée, pas de cœur en bandoulière, sur une patte avant, mais un défi à décoder, comme un poème subtil. Qui n'aboie pas sa signification, mais nous contraint à être juste un peu plus intelligents que nous ne le sommes. À la différence des chiens, dont l'adoration sans réserve nous rend plus bêtes. Sur Twitter, on estime qu'un peu plus de 31% des utilisateurs sont des félins, rôdeurs nocturnes, retweetant sournoisement ceux de leur espèce, reproduisant, dupliquant la sombre et rapace toujours féconde âme sauvage, qui est la mer sur laquelle flotte inconfortablement la civilisation. Pour un si éloquent Twitter félin, rien que la plus élégante litière. Mais si vous demandez « Sherry, qu'est-ce là ?» La réponse est toute innocente, ébahie. Miaou, qu'est-ce qui te prend ? Vivre libre ou mourir est l'essence même du chat qui, par contraste, fait de nous des êtres flagorneurs et obséquieux, assez semblables aux chiens. Une telle beauté nous instruit par sa perfection même, car elle est au-delà de la simple utilité. Pas de chat de travail, de chat de garde, être plébéien, mais tous descendants des dieux qu'honora l'Égypte ancienne. Et quoi de plus divin que d'enfoncer les dents dans un rat, une créature qu'abhorre l'humanité frileuse, tout en conservant la plus pure innocence chatte. Langue grenue, désir intense. Amour chat, le contact d'une dure tête velue. Mais, oh, où est-elle passée ? Minou, minou, minou. Elle viendra peut-être quand on l'appelle, comme le chien. Mais le plus souvent, elle ne viendra pas. Car, contrairement au chien, elle a une vie intérieure, inscrutable, inaccessible, inappropriable. Elle n'a pas pour visée de plaire, ni d'ailleurs de visée du tout. Sa faveur était un hasard, retirée aussi vite que donnée. Jamais elle ne fera vos quatre volontés. Jamais elle ne flattera faussement, ni ne vous fera croire que vous comptez pour beaucoup plus que la main qui caresse et nourrit. Elle a aussi beaucoup à faire dehors, au clair de lune. Ne demandez rien. Mais la voilà sortie, tête la première, par la chatière de plexiglas, pour revenir avec, déposée sur le sol à mes pieds, une petite carcasse très immobile. « Oh, chérie, qu'as-tu fait ?» Seul le présent du chat est librement offert. Le chien, dans la soumission qu'il enchaîne, n'a pas de libre arbitre, et donc « Oh, chérie, c'est pour moi ?» Car je veux considérer ma chatte Sherry, dont la queue balaye avec irritation ses touches quand ma prose laisse à désirer. Car il est irréfutable que le chat est le plus sévère critique de prose, rejetant chattement un travail de chien. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas ça du tout, alors que le chien bave de plaisir devant la pire médiocrité par complicité. Parfois, les prélassements félins oblitèrent le tapuscrit totalement, car vous n'osez écarter un membre, une queue, même délicatement, de votre ordinateur, sous peine de provoquer un feulement. « Miaou, sais-tu qui tu touches, toi ?» Si j'ose me lever de ce bureau avant l'heure, si j'ose plaider la fatigue humaine, vigoureusement, Sherry plantera ses griffes dans mes genoux, criant « Miaou, où crois-tu pouvoir aller, toi ?» Ainsi, heures, jours, éternités s'accumulent en pages et les pages en livres et les livres en œuvres, phénoménal le jugement littéraire. Les meilleurs livres, dit-on, ne sont pas écrits par des fantômes, mais par des chats. Simenon, Colette, John le Carré, sans oublier Hemingway, Auden, Eliot, Philip K. Dick, Borges et Burroughs et Patricia Highsmith, Jean Cocteau et Henri David Thoreau, H.P. Lovecraft et Edgar Allan Poe. Je souhaiterais pouvoir écrire aussi mystérieux qu'un chat. Twain, Bradbury, Raymond Chandler, Sartre, Sylvia Plath et Daniel Handler, sans oublier Samuel Johnson. Mais Hodge ne sera pas tué. Non, non, Hodge ne doit pas être tué. Reculant rapidement dans les brumes du temps, où la muse se matine de mulot, jusqu'à envelopper les deux dans le mystère. Chat et collaborateur. Dans un texte intitulé « Obéissance, 1962 », Joyce Carol Oates s'intéresse à l'expérience de Stanley Milgram, ce psychologue américain qui voulut évaluer la soumission des individus à l'autorité en plaçant une personne volontaire dans une situation où on lui demandait de soumettre une autre personne à un questionnaire et à punir celle-ci par un dispositif d'électrochoc. À chaque mauvaise réponse, l'intensité des décharges augmentait, allant jusqu'à la mort de la personne, qui n'était bien entendu qu'un acteur, mais dont les cris de souffrance simulés ne suffirent pas à dissuader l'autre de cesser la torture. Cette expérience menée après-guerre, visant à éclairer les ressorts de la torture pratiquée par les nazis, a eu pour effet de démontrer que toute personne était capable des pires atrocités lorsque l'ordre donné était à ses yeux légitime. C'est ce que la philosophe Hannah Arendt a appelé la banalisation du mal. Oates décline dans ce poème, à la façon d'une litanie, dont chaque phrase commence par « parce que », toutes les bonnes raisons qu'un être peut se donner pour légitimer sa violence. Obéissance, 1962. Parce qu'on t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que la blouse blanche t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que la voix de la blouse blanche t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que la voix d'un homme blanc t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que l'atmosphère du laboratoire t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que l'éclairage au néon t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce que l'université Tourelée t'a expliqué que tu devais obéir aux ordres. Parce qu'on était en 1962, après le procès d'Adolf Eichmann. Parce que la question était « Comment des êtres humains ont-ils pu commettre de tels actes contre d'autres êtres humains ?» Parce que pour comprendre l'Holocauste, tu dois comprendre l'âme du genre humain. Pas ce que dit l'âme, mais la façon dont elle se conduit. Voilà ce que tu dois comprendre. Parce que tu as accepté de participer à une expérience sur la mémoire dans le laboratoire de Stanley Milgram à Yale. Parce que tu as accepté de participer à une expérience sur les rapports entre punition et mémoire. Parce que l'expérience sur la mémoire n'était pas une expérience sur la mémoire, mais sur l'obéissance. Cela, on ne te l'a pas expliqué. Parce que Stanley Milgram voulait comprendre l'Holocauste. Parce que Stanley Milgram aurait péri dans l'Holocauste s'il était né en Europe, comme ses parents juifs. Stanley Milgram voulait comprendre l'Holocauste de la seule façon accessible à un scientifique, par l'expérimentation, par une expérience menée sur un sujet qui en ignore le périmètre, par une expérience menée sur un sujet qui ignore être lui-même le sujet de l'expérience. Parce qu'on t'a expliqué que tu jouerais le rôle du professeur dans l'expérience. Parce qu'on t'a expliqué que le professeur devait obéir aux ordres qu'on lui donnait. Parce qu'on t'a expliqué que le professeur devait punir l'élève quand il se trompait. Parce qu'on t'a expliqué que s'il y avait punition, il devait y avoir quelqu'un de puni. Parce qu'on t'a expliqué que s'il y avait punition, il devait y avoir un punisseur. Parce que l'élève était dans une autre pièce, tu ne voyais pas son visage quand tu lui administrais des décharges électriques. Certes, tu entendais ses cris, mais tu ne voyais pas le visage de l'élève. Si tu ne vois pas son visage, y a-t-il une victime ? Si tu ne sais pas son nom, y a-t-il une victime ? Si ta responsabilité n'est pas engagée, peux-tu être tenu responsable ? Parce que le voltage était faible au début, 15 volts. Parce que le voltage augmentait lentement, 40 volts, 70 volts. Parce que, soucieux de plaire, parce que, bon, parce que, obéir, parce que 4 dollars de l'heure, 220 volts, 300 volts, parce qu'on t'a expliqué que tu devais continuer jusqu'au bout, parce qu'on t'a expliqué que ta responsabilité ne serait pas engagée, parce que tu transpirais d'angoisse et que, pourtant, tu obéissais, parce que tu éclatais d'un rire hystérique et que, pourtant, tu obéissais. Obéir aux ordres, continuer jusqu'au bout, pas responsable, tu obéissais. 475 volts. parce que, au fond du cerveau, l'antienne des anciens, fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit. Parce que, au profond du cerveau, les anciens sont sans pitié. Fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit. Parce que, au profond du cerveau, pas d'âme, mais des pierres enfoncées dans la bouche. Fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit. Parce que l'Holocauste n'était pas possible sans obéir aux ordres. Parce que l'Holocauste n'était pas possible sans continuer jusqu'au bout. Parce que l'Holocauste n'était pas possible sans toi. 50 ans à vivre et revivre l'expérience infâme dans ta vie en ruine. 50 ans d'insomnie à te rappeler le silence après la décharge de 475 volts. 50 ans de honte, tu avais tué un être humain, obéi aux ordres jusqu'au bout. Et le débriefing n'atténuerait pas l'horreur, tuer un être humain. Car finalement, on t'expliqua le protocole de l'expérience, le rôle que tu avais joué sans t'en rendre compte, les actes que tu avais commis sans t'en rendre compte. Pas de volt, pas de décharge, pas d'élèves, seulement toi, le professeur, et néanmoins pas un professeur, toi, le sujet de l'expérience, toujours et seulement toi. Tout le laboratoire de connivence contre toi, toute l'histoire de connivence contre toi. Pas ta faute, obéir aux ordres, continuer jusqu'au bout. Tu ne seras pas tenu pour responsable. Vous connaissez sans doute le peintre Edward Hopper, né en 1882, mort en 1967, un des principaux représentants du réalisme américain. Attentif lui aussi en son temps aux mutations de la société américaine, avec dans ses tableaux des personnages souvent esselés et mélancoliques. C'est sans doute cette convergence d'intérêts qui a pu inspirer à Joyce Carol Oates un poème écrit à partir d'une œuvre spécifique de Hopper, datant de 1926, qui s'appelle « 11h du matin ». Évidemment, parler d'une œuvre picturale n'est pas très radiophonique, mais je vous décris quand même grossièrement le tableau avant de vous dire le poème. C'est une scène d'intérieur. Une femme nue est assise de profil dans un fauteuil, le buste penché en avant. Ses cheveux longs dissimulent son visage et elle regarde par la fenêtre. Cela se passe dans une pièce aux couleurs sombres, sur lesquelles tranche la couleur blafarde du corps nu, ainsi que la lumière provenant de la fenêtre. Voici maintenant les mots que Joyce a posés sur ce tableau. Elle est dévêtue, mais garde ses chaussures, veut se penser nue et bien dans son corps. Quoique ce soit un corps mûr, en chair, et que sa posture dans le fauteuil, penché en avant, bras sur les genoux, tourné vers la fenêtre, fasse ressortir son ventre, mais quelle importance ? Quelle importance ? Il n'est pas là. Combien de temps qu'elle habite ce meublé minable, 3e avenue et 23e rue Manhattan ? 15 ans au moins. Montée de Hackensack à la ville, par besoin de respirer. Elle ne l'avait jamais regretté. Traitée d'égoïste, d'ingrate bien sûr. Je t'en fiche, il l'aurait sucée jusqu'à la moelle. Un premier boulot d'employé à la Trinity Trust. 3 ans de sa jeune vie gâchée à attendre que R.B. quitte sa femme et qui aurait cru qu'une fille maligne comme elle se laisse avoir. Son deuxième boulot, employé aussi, mais promu au secrétariat de Mr. Castle chez Lyman Typewriters. Le moins que ce vieux salaud pouvait faire, et elle aurait fait bien mieux sans cette poufiasse de Stella Checky. Troisième boulot, Tweck Immobilier et Assurance. Et elle est la secrétaire particulière de Mr. Tweck. Que ferais-je sans vous, ma chère ? Tant que Tweck la paie correctement et qu'il ne la laisse pas tomber comme à Noël dernier, elle avait voulu mourir. Elle déteste cette chambre minable, sombre comme une région de l'âme où la lumière ne pénètre pas. Vieux meubles miteux, avachis et matelas affaissés. Comme en rêve, ces corps que nous sentons sans les voir. Mais pas un fichu jour où elle ne fait pas son lit, visiteur ou pas. Il n'aime pas le désordre. Il lui avait raconté avoir appris à faire un lit correctement dans l'US Army en 1917. Le truc, dit-il, c'est de faire son lit dès qu'on se lève. Il se détache d'elle dès que c'est fini. Peau poisseuse, jambes poilues, tout fraîche sur les épaules, torse, ventre. Elle aimerait qu'il l'enlace et qu'ils glissent ensemble dans le sommeil, mais c'est rare. Elle déteste sentir les nerfs tressauter dans ses jambes. Il la quitterait d'un bond dès qu'il a joui, se dit-elle, le salopard. Fou de désir pour elle, et puis d'un coup terminé. Il est dans sa tête et elle dans la sienne. Ce matin, elle se dit, le fichu salopard, c'est bien la dernière fois. Elle attend qu'il appelle pour expliquer qu'il ne soit pas venu la veille. Elle avait attendu de 20h à minuit, des heures à se rendre malade, à le haïr et à se haïr. Et pourtant, quel élan d'espoir quand le téléphone avait sonné. Il avait dit « Inévitable, crise à la maison, t'aime ». Maintenant, elle attend qu'il rappelle. Une chance pour qu'il vienne chez elle avant d'appeler, comme il l'a déjà fait plus d'une fois. Plus fort que moi, bon Dieu, je suis fou de toi. Dans ce tableau sombre d'Edward Hopper, qui ne pouvait peindre que sa femme, parce que Joe Hopper était jalouse des modèles nus, on ne voit pas son visage. Mais c'est un visage jeune, alourdi et maussade, les lèvres fardées, un visage de brune boudeuse, encore sacrément séduisant, et il le sait. Ça l'excite de voir des hommes dans la rue la suivre des yeux, et puis ça vire allègre, et il s'en prend à elle. Elle se dit qu'elle laisse encore 10 minutes à ce salopard. Elle est Joe Hopper, son visage ordinaire de rousse plaqué sur ce visage charnu de femme. Et il est l'artiste, mais aussi l'amant. Et la semaine dernière, il était passé pour l'emmener chez Delmonico, mais dans cette pièce sombre, ils avaient fait l'amour et n'étaient sortis du lit que trop tard, et elle l'avait entendu au téléphone expliquer. Cette voix d'homme qui explique à une épouse, si puérile, si lâche, elle en est malade, de mépris, rien qu'en y pensant. Pourtant, il dit qu'il a quitté sa famille, que c'est elle qu'il aime. Promène les mains sur elle comme un aveugle qui tente de voir. Et ce rayonnement sur son visage, grêlé, marqué, il a besoin d'elle comme un affamé a besoin de nourriture. « Mourrai sans toi, ne me quitte pas. » Un jour, elle l'avait vu à son insu dans la rue avec son jeune fils, un gringalet de 13 ans, père et fils côte à côte, si liés qu'ils n'avaient pas besoin de parler, partageant une humeur solitaire comme leurs visages d'oiseaux de proie et leurs cheveux noirs en V. Le fils deviendra le père. Elle avait vu, elle s'était sentie humiliée, exclu. Il lui avait dit que ce n'était pas ce qu'elle croyait, ce n'était pas sa famille qui l'empêchait de l'aimer, de tout son être, mais sa vie pendant la guerre, dont il n'avait jamais parlé à personne, dans l'infanterie, en France. Ce qui s'insinuait comme une paralysie en lui. Ce qui lui était arrivé et ce qu'il avait vu et ce qu'il avait perpétré de ses mains. Et elle avait pris ses mains. Elle les avait embrassés et portés à ses seins qui étaient douloureux, comme les seins d'une jeune mère avide de donner la tétée et de nourrir. Et elle avait dit « Non, ça, c'est ton ancienne vie. Je suis ta nouvelle vie. » Elle laisse encore 5 minutes à sa nouvelle vie.
Thank you.
Dans le poème qui vient, on va retrouver la même forme que dans le texte que je vous ai lu sur l'expérience de Milgram, à savoir cette accumulation de « parce que ». Et c'est des femmes dont il est question. Non pas la femme délaissée par l'amant trop furtif, comme dans ce que vous venez d'entendre, mais plus généralement de toutes les femmes, depuis l'adolescente jusqu'à la femme mûre, qui ont chacune de bonnes raisons d'avoir recours à l'avortement. Et c'est un sujet d'actualité aux États-Unis, puisque, comme vous le savez, le droit à l'avortement est globalement remis en question et d'ores et déjà supprimé dans certains États. Ce qui est intéressant dans la façon dont Joyce Carol Oates s'empare du sujet, c'est qu'elle ne se place pas, comme on pourrait l'imaginer de la part d'une écrivaine engagée, du côté des femmes qui revendiquent avec fermeté le droit à l'avortement, mais plutôt du côté des sans-voix, des victimes, de celles qui vivent dans la peur et qui appellent au secours. Aidez-moi, docteur, parce que personne ne doit savoir, parce qu'il me détesterait à jamais, parce qu'il ne me pardonnerait jamais de les avoir déshonorés, parce qu'il me tuerait, parce que c'était ma première fois, ce qu'il m'a fait faire, parce qu'il n'y a eu que cette fois-là, parce que ce n'est pas juste, parce que j'ai peur qu'avoir un bébé fasse mal, tellement peur, parce qu'au lycée, ils sauront. Ils me renverront. Parce que ma grand-mère est très malade, ce sera un choc terrible pour elle. Parce que je suis trop vieille. J'ai eu des enfants, j'en ai eu 5 qui ont survécu. Si j'en ai un autre maintenant, je crois que j'en mourrai. Parce que j'ai dit à mon mari que c'était un risque, parce qu'il ne m'a pas écoutée. Parce que je le hais, parce que je suis tellement fatiguée. Parce que je ne vais pas bien, parce que je suis essoufflée, et que j'ai cette douleur dans la poitrine. Quelquefois, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Dans l'escalier, au travail, je m'évanouirai, je tomberai et tout le monde saura. Parce que s'ils me relèvent et que mon chemisier se soulève, ils verront mon ventre et que mon jean ne ferme plus à la taille. Parce que mon mari saura qu'il n'est pas de lui. Parce que ce sera la fin de notre famille. Parce qu'il faudra que je me tue avant ça. Parce qu'il y a du diabète dans notre famille. J'ai peur de faire une analyse de sang. Parce que je ne suis jamais allée à l'hôpital. Personne dans la famille, jamais. Parce que nous sommes contre les transplantations sanguines. C'est comme ça qu'on dit ? C'est interdit par la Bible. Parce que le père est parti. Parce qu'il ne reviendra pas. Parce que le père me tuerait s'il savait, parce que le père est marié, parce que le père a déjà trop d'enfants, parce que le père nierait et il m'accuserait de mentir, parce que le père dirait que c'était ma faute, que je ne l'ai pas arrêté. Parce qu'il m'a traité de garce, de pute quand il était en colère, alors qu'il n'y avait pas de raison, parce qu'il ne m'aimerait plus. Parce que je suis trop jeune, docteur, parce que je veux finir mes études. Parce que je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne voulais pas que ça arrive. Parce que c'est le même homme que ma sœur. Parce qu'il est fiancé à ma sœur. Parce qu'il ne faut pas que ma sœur sache, parce que c'est un secret. Il a juré de m'étrangler si je parlais. Parce que je perdrai mon travail. Parce que je ne pourrai pas continuer à porter de gros sacs. Ils me mettront à la porte s'ils s'en aperçoivent. Parce que je ne pourrai pas faire 90 minutes de trajet par jour. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. On m'expulsera. Parce que j'ai déjà 3 enfants. Ils auraient honte. Parce qu'il est si vieux. Parce qu'il est trop jeune, irresponsable et fainéant. Parce qu'il est parti à l'armée. Parce qu'il aurait trop honte pour revenir. Parce que c'est le père de ma meilleure amie, parce qu'il habite juste à côté, parce que nous le verrions tout le temps et que ma famille verrait le bébé, parce qu'on ne me croirait pas si je disais son nom, parce que c'est un homme de Dieu, c'est lui qu'on croirait quoi qu'il dise, parce qu'il m'a fait promettre, personne ne doit savoir, parce que ce n'était pas ma faute. Parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça avec lui, mais il m'a forcée pour prouver que je l'aimais. Parce que s'il y a un bébé, il ne m'aimera plus jamais. parce que nous nous fiancerons peut-être si ça s'en va. Parce que personne ne m'aimera plus jamais et qu'ils auront bien raison. Parce que tous ceux qui savent parleront de moi avec mépris et écœurement, parce qu'ils diront « Elle a brisé le cœur de ses parents, c'est une pute. » Parce que j'ai essayé de le faire moi-même avec un pic à glace, mais j'avais trop peur, je n'ai pas pu. Parce que j'ai frappé mon ventre à coups de poing, parce que ça m'a rendu malade et m'a fait vomir, mais c'est tout. Parce que je n'ai plus aucun espoir, docteur, si vous ne m'aidez pas. Parce que Dieu comprendra. C'est seulement pour cette fois. Les violences faites aux enfants sont tout aussi inacceptables que celles faites aux femmes. Et c'est encore une femme, dans le poème suivant, qui est saisie d'émotion dans l'exercice de son métier d'interprète par le récit du meurtre d'un enfant. Langue des signes américaine. Sur l'estrade, mesuré et grave comme un métronome, le poète, blanc, homme, au crâne chauve, luisant, rumine en syllabes gnomiques sur la mort de Tamir Rice, l'enfant noir de 12 ans, abattu en un clin d'œil dans un parc par un policier de Cleveland, prétendant avoir pris le pistolet en plastique du garçon pour une arme réelle, avide comme la sienne de tirer et tuer. Tandis qu'à 12 pieds de lui, au bord de la scène illuminée, l'interprète, blanche, femme, traduisant pour les sourds, est saisie d'émotion. Horreur, pitié, incrédulité, indignation, chagrin, jeune visage décomposé et yeux remplis de larmes, comme la mère de Tamir Rice, peut-être, ou sa sœur, qui avait vu l'enfant se vider de son sang sur l'aire de jeu de Cleveland. Nous regardons fascinés les doigts de l'interprète cueillir les mots du poète dans l'air, comme des balles, briser des strophes plus closes que des conques avec l'habile férocité d'un cormoran et rendre le discours gnome brutal comme le malheur, comme la douleur, comme la terreur humaine. Œil humide et bouche grimaçante où les mots que l'on peut prononcer ne peuvent suivre.
Thank you.
Palliatif. 1. Est l'espoir. Arsenic pris des semaines par micro-gouttes sur des langues incrédules. Espoir, la chose aux ailes infectes, claquant autour de nos têtes, écrasée enfin d'un coup de balai, piétinée, pulvérisée. Maintenant, pureté du silence. Juste le goutte à goutte minimal. Solution saline, dilodide. Juste la respiration oppressée et arythmique. La poitrine qui se soulève, retombe, se soulève, retombe. Le plus faible des échos. Renoncer. 2. Tiens le désespoir comme une carte à jouer près du cœur, réticente à révéler ce que tu ressens. Mais oui, tu risques la perte irrévocable, trop tard. Et donc au bord de trop tard, quand il n'y a personne d'autre dans la chambre, car il peut y avoir foule dans une chambre palliative, foule signifiant plus de deux personnes, tu dis à ton mari combien tu l'aimes, qu'il a été un mari merveilleux, et il dit « Mais je t'ai trahi en mourant ». Et tu protestes. « Pourquoi dis-tu une chose pareille? Tu n'es pas mort. Nous parlons ici tous les deux. » Et il dit « Parce que je suis mort. » Comme après la dernière biopsie, il s'était indigné. « Ils m'ont pris mon âme. Ils m'ont emmené au crématorium. J'ai vu le panneau. N'essaie pas de me dire que je ne l'ai pas vu. » Piégé dans ce lit comme dans une prison. La voiture est-elle à l'entrée? Va chercher la voiture. Où sont les clés de la voiture? Joyce, ne t'en va pas, Joyce. Il nous faut la voiture. Où sont les clés? Je veux rentrer chez nous. Emmène-moi chez nous, Joyce. Ne me quitte pas. Qu'avons-nous fait de la voiture? En soins palliatifs, le temps s'interrompt. Les heures deviennent des jours et les jours... la nuit, et de nouveau le jour, et la nuit, et la bouche, naguère ardente à donner et recevoir les baisers, est molle, muette. Et la respiration ralentie, asymétrique, comme un bateau prenant de la gîte. Et les rêves fiévreux font rage sous des paupières bleues, frémissant d'une vie secrète. Et puis finalement, le soupir le plus profond de toute une vie. Après un tel combat, il faut aimer l'eau noire sans rides où flotte l'eau froid parfait de la lune. Un texte poignant, le dernier du recueil, qui fait clairement référence à la mort de Charlie Gross, qui était le second mari de Joyce, à la mémoire duquel elle dédie son livre, par ces mots, à Charlie Gross, mon premier lecteur et mon mari bien-aimé. Charlie Gross, qui avait été professeur de neurosciences à l'université de Princeton et qui est décédé en avril 2019. Un dernier texte, maintenant, le plus long du recueil est pour moi le plus puissant, car en retraçant l'itinéraire cinématographique et personnel d'un Marlon Brando, dilapidant son talent et brûlant la vie par les deux bouts, Joyce Carol Oates fait émerger l'archétype d'une société américaine, dilapidant de la même façon ses valeurs et ses promesses de grandeur. Mais ce texte est aussi une déclaration d'amour pour cet acteur hors norme qui l'a fasciné dès ses premiers films dans les années 50. Et une fois de plus, Oates accumule les « parce que ». À Marlon Brando en enfer. Parce que tu as étouffé ta beauté dans la graisse. Parce que tu as fait de notre adoration une farce. Parce que tu étais le mâle prédateur sans remords. Parce que tu étais le plus grand de nos acteurs et que tu as jeté la grandeur aux ordures. Parce que tu ne pouvais prendre au sérieux ce que les autres prenaient pour leur vie. Parce qu'en cela, tu faisais une farce de nos vies. Parce que tu es mort confit dans la graisse et que même alors tu avais vécu trop longtemps. Parce que tu te détestais et te rendais détestable. Parce que tu as noyé le paraplégique en fauteuil de « C'était des hommes » dans la graisse bouffie d'un Kurtz. Parce que tu semais ton amour avec négligence, les détritus jetés à la volée d'un véhicule à pleine vitesse, et parce que tu aimais à la fois homme et femme, mais pas assez. Parce que le lent suicide du dégoût de soi nous horrifie et nous fascine, comme fascine la chute de la tragédie dans la farce et la monstruosité de la beauté décomposée. Parce que tu as incité une fille de 15 ans à tromper ses parents, un jour de classe brossade de l'hiver 1953. Parce que tu as incité cette fille à mentir sur l'endroit où elle allait, ce qu'elle faisait, l'acte le plus téméraire de sa jeune vie. Parce que tu as incité cette fille à prendre un Greyhound de Williamsville, New York, au centre-ville de Buffalo, New York. Seule dans le crépuscule hivernal, comme elle n'avait jamais été seule avant ce jour. Parce que tu as incité cette fille tremblante à monter dans le bus devant le lycée de Williamsville à 16h55 pour faire 20 km de route jusqu'au petit cinéma minable de Main Street qui projetait en reprise à 18h l'équipée sauvage, un lieu qui lui aurait été interdit si ses parents avaient su. Ce qui aurait pu arriver, par chance, n'arriva pas. Parce que dans le cinéma de Main Street, il y avait des rangées de sièges quasi vides dans l'obscurité, des relents mêlés de pop-corn rance et de fumée de cigarettes, c'était une époque où le balcon était fumeur, et sur l'écran, en gros plan, le stupéfiant personnage de Johnny sur sa moto, blouson de cuir noir, lunettes noires opaques, rayonnant de l'autorité boudeuse du jeune mâle prédateur. Parce que quand on te demandait contre quoi tu te rebellais, tu disais avec un merveilleux dédain « T'as quoi en stock ?» Parce que c'était aussi notre réponse, que nous n'avions pas ces mots-là à notre disposition. Parce que, incarnant Johnny, tu nous emmenais sur la moto des Outlaws, nous accrochions à ta taille comme le sommeil des enfants. Parce que, incarnant Johnny, tu étais l'image du danger et que tu étais impénitent. Parce que, incarnant Johnny, tu ne pouvais dire merci. Parce que, incarnant Johnny, tu nous abandonnais à la fin. Parce que sur cette moto, de plus en plus petit sur la route, tu quittais la petite ville et disparaissais. Parce que tu as disparu. Parce qu'en pleine vue, tu as disparu. Parce que la témérité de l'adolescence est si exaltante, le cœur se gonfle à éclater. Parce que la témérité est le quotient heureux du désespoir, et voisine de la honte, et que pourtant elle n'est ni l'un ni l'autre, et plus grande que leur somme. Parce que la fille se rappellera toute sa vie que tu es entré dans sa vie comme un soleil éclairant un paysage jugé à tort dénué de beauté. Parce qu'il y a un plaisir sauvage dans la perte et dans la finalité de la perte. Parce qu'à 23 ans à Broadway, tu as fait dérailler un tramway nommé Désir et fait de la tragédie de Blanche Dubois le premier de tes triomphes. Si insolemment Stanley Kowalski qu'il n'y en a eu aucun depuis, parce que, après Brando, tous ceux qui suivent sont des imitateurs ratés. Braillard et bestial et drôle. Le rire cru du mâle polonais, l'humiliation de la femme du Sud dont le viol n'est qu'une blague de plus. Parce que tu étais le violeur parfait, avec l'arrogance du violeur accomplissant la pire volonté brute des spectateurs. Parce que tu étais Terry Molloy, ton jeune visage cabossé crevant l'écran, parce que douceur et douleur cohabitaient dans ce visage, parce que tu ramassais le gant tombé d'Eva Marie Saint et que tu l'enfilais, t'appropriant la jeune catholique blonde et la portant comme un gant. Parce que tu mettais à nu le désir de ton âme, j'aurais pu être un champion, sachant que la défaite, l'échec, l'ignominie seraient ton destin. Parce qu'en 1955, à l'âge de 31 ans, après avoir obtenu un Oscar pour « Sur les quais », tu étais interviewé par Edward R. Murrow, enveloppé de fumée de cigarettes comme d'un linceul, et que dans ta maison de stuc louée sur les collines de Los Angeles, tu disais déjà essayer d'être « normal », parce que tu supportais les questions boiteuses de l'intervieweur. Avez-vous découvert que le succès peut avoir ses problèmes? Envisagez-vous une longue carrière d'acteur? Parce que tu concédais « c'est la seule chose que je sache bien faire ». Parce que tu disais vouloir chanter et danser à l'écran, vouloir être superficiel, vouloir distraire. Parce que sur la cheminée de la maison de location se trouvait un portrait de ta mère à 40 ans, ta mère alcoolique qui n'avait pas su t'aimer assez. Parce que ton malaise pendant l'interview était évident. Parce que tu parlais de la peur de perdre l'anonymat quand déjà l'anonymat était perdu. Parce qu'à la fin de cette interview maladroite, on te montrait en train de jouer du bongo avec un autre batteur dans le sous-sol, bizarrement décoré de la maison louée. Parce que très vite, tes mains frappaient les tambours avec une sorte de précision maniaque. Yeux mi-clos, un bonheur de bêta adoucissait ton visage. Parce que, à ce moment-là, il n'était pas encore trop tard. Parce que tu es devenu le mâle prédateur insoucieux de ses paternités, engendrant 11 enfants que tu connaîtrais à peine, dont 3 avec ta gouvernante guatémaltèque. Parce que tu étais le père absent d'un fils drogué te ressemblant beaucoup, excepté par le talent, Christian, qui a bâti le fiancé de sa sœur cadette, Cheyenne, dans ta maison de Los Angeles, fut incarcéré pour homicide et mourut jeune. Et que tu étais le père absent de Cheyenne, qui se pendit peu après le meurtre, à l'âge de 25 ans. Parce que ta beauté te séduisit et fit de toi un farceur. Parce que le farceur va toujours trop loin, c'est l'essence de la farce. Parce que tu étais un farceur semant la mort comme le sperme, parce que tout ce que tu avais, il te fallait le dilapider. Parce que tu as essayé, comme Paul Muni, de disparaître dans les films, parce que tu as été Marc-Antoine, Sky Masterson, Zapata, Christian Fletcher, Napoléon. Tu as été l'outlaw travesti clownesque de la vengeance aux deux visages, un fiasco que tu avais toi-même réalisé. Tu as été Vito Corleone et tu as été le Kurtz bavard, chauve et gras d'Apocalypse Now, marmonnant et titubant dans le noir, folie américaine bouffie. Parce que, incarnant Paul, le veuf du dernier tango à Paris, tu dénudais ton âme malade dans le rayonnement de la désintégration. Parce que tu étais pétrifié par la terreur de l'anéantissement, mais jouais néanmoins le clown, montrant tes fesses sur une piste de danse parisienne. Parce que désemparé par le corps de la belle épouse morte, ridiculement entourée de fleurs, tu pouvais à peine parler, puis parler trop. Parce que tu étais stupide de chagrin, parce que tu ne pouvais abandonner. Bas le masque cosmétique, tu n'avais pas connu la morte et tu ne connaîtrais pas la morte qui ne t'avait pas été fidèle. Tout ce que tu peux connaître est le corps docile de ton amante, bien trop jeune pour toi, et seulement son corps. La futilité de la sexualité masculine comme un rempart contre la mort. La farce de la sexualité masculine comme un rempart contre la mort. Parce que malgré tout, tu dansais avec une grâce ivre, étonnante, avec la fille jeune comme ta fille. Sur la piste de tango, tu tournoyais, tu tombais à genoux, tu te débarrassais de ton manteau, tu portais une chemise correcte et une cravate pour déguiser l'ivresse et le désespoir. Tu t'étalais à plat dos au milieu de danseurs indifférents et pourtant, contre toute attente, tu te relevais aussitôt et dansait. Et dans une parodie ivre de tango, tu étais d'une légèreté inattendue, rayonnant de gaieté, faisant le clown, moquant les émotions intenses et le drame sexuel du tango, de même que dans ta jeunesse, tu avais voulu être superficiel, distraire. Et puis tu baissais ton pantalon et montrais tes fesses dans l'euphorie du mépris. Parce que l'acteur n'existe pas s'il n'est pas le centre de l'attention. Parce que le cœur de l'acteur est un vide qu'aucune adulation ne peut remplir. Parce que, après le tango bouffon, tu te recroquevillais sur toi-même, dans l'épuisement du chagrin et dans le silence du chagrin, un corps fœtal sur un balcon dans un Paris à la lumière grise. En enfer, il y a le tango. Les autres danseurs continuent de danser. Parce que tu as fait du dégoût de soi un caprice de l'art, parce que ce que tu avais de bien, ta conscience sociale, ta générosité pour les causes progressistes, était englouti dans l'autre. Parce que tu t'es gaspillé dans une série de films stupides, comme par mépris pour ton talent et pour ce que nous attendions de ce talent, parce que, à la cinquantaine, tu avais vécu trop longtemps. Quand il y a eu tant d'amour, il ne peut y avoir de pardon. Parce qu'à 80 ans, tu avais supporté des phases successives de toi-même, comme un grand arbre étouffé par ses propres anneaux, commençant à pourrir de l'intérieur. Parce que quand tu es mort, nous avons compris que tu étais mort depuis longtemps. Parce que nous ne pouvions te pardonner d'avoir jeté la grandeur aux orties. Parce que tu nous as quittés et nous nous sentons seuls et nous te rejoindrions en enfer si tu voulais de nous. C'est l'heure de nous quitter. Je vous rappelle le titre du livre de Joyce Carol Oates, Mélancolie américaine, qui est publié aux éditions Philip Ray. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission le jeudi 18 mai. Ce sera l'Ascension, l'occasion de grimper ensemble au firmament de la poésie. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.